René Mézeroy, Thérèse Vigneault. Thérèse pleurait, les lèvres écrasées contre son mouchoir pour étouffer ses sanglots. Il s'était assis sur un des bancs du jardin public, dans une allée déserte où de vagues lueurs d'étoiles filtraient entre les branches. Elle ne trouvait pas une parole à lui dire. Cette pensée que l'homme qu'elle adorait allait partir, que la musique qui leur arrivait par lambeaux rythmait les toasts d'une réception d'adieu, et qu'après-demain, à pointe d'aube, le régiment, clairons en tête, disparaîtrait là-bas, au détour de la grand-route, et ne reviendrait jamais à Saint-Martéjoux, cette vision brusque de solitude, de volets fermés, d'amour brisé, lui serrait le cœur comme en un étau. Et elle frottait son corps enfiévré au dolman de l'officier. Elle se pelotonnait dans ses bras et tressaillait sous ses baisers avec une immense et croissante douleur. C'était fini. Elle reprendrait la vie ancienne dans ses rêves, sans joie, à côté de son père, de ce bon monsieur Vigneault, comme disaient les autres employés de la préfecture, de l'homme égoïste qui ne songeait qu'à ses paperasses, à ses parties de domino, café triadou et à sa collection de rosiers. Elle se languirait ainsi qu'une exilée, toute seule dans leur morne maison de la rue Perchepinte. Montoriol se taisait comme elle, l'étreignait avec un emportement désespéré. Les heures sonnaient dans les nombreux clochers, des feuilles mortes tourbillonnaient. Et, comme s'ils eussent cédé au charme de la nuit, et voulu s'imprégner d'un seul coup, de tout le bonheur qu'interrompait cette séparation brutale, ils repassèrent date par date leur histoire, depuis le bal officiel où il lui avait été présenté pour la première fois. Il la revoyait dans ses vastes salons avec son air timide de jeune fille pauvre qui a cousu sa toilette de mousseline elle-même, mais si jolie, avec ses cheveux d'un blond cendré que retenait un ruban bleu, sa tête de pastel, où les yeux luisaient comme les prunelles vertes des chattes, où les oreilles, petites, étaient piquées de deux grains de corail, pareils à des gouttelettes de sang. Ils avaient valsé ensemble toute la nuit. Ils s'étaient écrits ensuite chaque jour. Elle allait, avec son capulet rouge sur le front, chercher ses lettres à la poste restante dès que le soir tombait. Cela lui brûlait l'être, la rendait comme grise. Elle s'échappait par la porte du jardin. Il courait la rejoindre dans les églises, dans les ruelles solitaires de faubourg. Il se promenait, le bras à la taille. Il s'embrassait. Il se jurait de s'adorer jusqu'à la mort. Et le jour où M. Vigneault avait pris un congé pour assister à l'enterrement d'une cousine qui lui laissait son héritage, elle s'était donnée tout entière, simplement, amoureusement, sans hésiter, comme une fiancée qui tient sa promesse. Elle lui appartenait maintenant. Dès qu'il faisait un signe, dès qu'il le désirait, elle accourait, leste et pimpante, dans la chambre du lieutenant, tirait les rideaux, se déshabillait comme si toute sa toilette n'eût tenu qu'à une épingle. Elle avait des chemises qui sentaient l'iris, une gaieté de gamine que la tiédeur des oreillers met en folie. Elle bernait son père comme un tuteur de comédie, n'attendait même pas pour s'enfuir qu'il eût boutonné ses manches de lustrine et tourné le dos, inventait des prétextes continuels pour expliquer ses absences, ses retours au milieu de la nuit, avec son corset roulé dans un journal, et des frissons emmêlés que, dans la hâte de l'heure oubliée, elle ne se donnait même pas la peine de recoiffer. Elle n'avait plus conscience ni des jours ni des mois, dérivait à volo, ne voyait dans la vie qu'une succession de minutes pareilles, heureuses et trop brèves lorsqu'elle était auprès de son amant, interminables et moroses lorsqu'elle se morfondait loin de lui. Et parce que des soldats, ameutés par une fille, avaient saccagé une guinguette de barrière, parce que le colonel en avait profité pour traiter le maire comme un domestique malhonnête, parce que des querelles éclataient dans les cafés, on expédiait le régiment à l'autre bout du pays, dans une garnison de frontière. Thérèse répétait en hochant la tête, atterrée devant l'écroulement de son bonheur. « Mon Dieu, est-ce possible que tu t'en ailles si loin, pour toujours ?» Alors, n'y tenant plus, il la supplia d'abandonner ce père qui ne l'aimait pas, de déserter la maison familiale où aucune affection ne la retenait. Il avait assez de fortune pour vivre à deux. Elle était libre de ses actes. Là-bas, personne ne la connaissait. Ils demeureraient ensemble, elle serait comme sa femme. Il n'aurait plus besoin de se cacher, de regarder la pendule, de mentir. Il lui montrait, comme en un mirage, une existence tranquille, béate, dans laquelle on s'assoupit, on s'enfonce. Les larmes de la jeune fille s'étaient séchées. Elle n'osait pas l'interrompre. Et lorsqu'il eut fini, elle lui noua câlinement les mains autour du cou et murmura avec des inflexions lentes. « C'est vrai, c'est bien vrai, dit. Tu me veux complètement avec toi ?» Thérèse était arrivée avec deux petites malles et la robe qu'elle avait sur elle. On aurait dit aller voir dans cet appartement meublé, qu'il payait 60 francs par mois, de deux enfants qui jouent au ménage. L'ordonnance n'osait jamais ouvrir la porte. Montoriol ne faisait plus de visite, ne mettait le pied au cercle que pour les réceptions, était continuellement aux arrêts. Se dispensait 8 fois sur 10 de déplier sa serviette à la pension. Il s'endettait. Il n'était heureux que dans son intérieur, les coudes sur la nappe, leurs deux chaises tout près l'une de l'autre. Il ne sortait qu'avec Thérèse. Il s'affichait avec elle en tenue. Il songeait à l'épouser, à régulariser cette situation fausse dont il souffrait quelquefois pour sa maîtresse. Celle-ci acceptait tout ce qu'il exigeait, l'enveloppait de tendresses incessantes. Avec son intuition de femme aimante, elle sentait bien qu'on l'épiait, qu'on la jalousait, qu'on sapait sourdement leur logis fermé comme une prison mystérieuse. Elle en avait d'abord été ulcérée, irritée jusqu'au tréfonds de l'âme. Mais les baisers de son amant la consolaient aussitôt, détournait le cours de ses idées noires. Ne fallait-il pas payer par quelque souffrance cet amour, ces joies? Avait-elle le droit de se plaindre, d'accuser le sort pour des vétilles absurdes? Que lui importait d'être toisée insolemment comme une gadoue par la colonelle à la messe, de ne se voir saluer que par quelques sous-lieutenants, d'apprendre par des lettres anonymes qu'on la tournait en ridicule, que la grosse madame Vignerolles, une ancienne cantinière des Zouaves, ramassée en campagne par un capitaine décavé, l'éclaboussait de calomnies grossières, que la femme du chef de musique, qui, à défaut d'officier, couchait avec les sergents-majors, disait en pinçant ses lèvres maquillées « C'est dégoûtant de tolérer des traînées pareilles dans un régiment. » Puis, malgré elle, devant cette guerre acharnée qu'on lui déclarait, qui ne désarmait pas un seul jour, elle eut peur. Elle perdit son assurance hautaine de femme qui se sait idolâtrée. On la relançait partout, on la traquait comme une bête dangereuse. On ne lui épargnait aucune humiliation, aucune torture. On écrivait sur elle des choses infâmes à Montoriol. On se moquait de lui pendant les pauses de l'exercice. Tout le régiment semblait s'être ligué pour les séparer, pour lui rendre cette liaison odieuse. On le punissait. Le colonel l'avait noté déplorablement à l'inspection et rayé du tableau d'avancement. Sa mère ne lui répondait plus, ne lui envoyait pas sa pension accoutumée. Peu à peu, cela l'énervait, le montait contre la malheureuse qui n'était coupable après tout que de l'avoir écoutée. La haine des autres s'infiltrait dans son cerveau comme un poison versé goutte à goutte. Il devenait injuste, il la harcelait de taquineries méchantes, se moquait de son accent gascon, de son profil de bourgeoise, de ses toilettes modestes. Il s'emportait pour un rien, jurait, lui reprochait avec amertume d'entraver sa carrière, de l'avoir acculée au fond d'une impasse. Il s'en allait en battant les portes, agacé par sa figure résignée, ses yeux baignés d'une tristesse mortelle, et lui criait « Vrai, tu m'embêtes avec des airs navrés. On croirait que je te rends malheureuse. » Thérèse baissait la tête, ne se plaignait pas, ne dormait plus, ne lui adressait aucun reproche. Elle se contentait d'une poignée de main ou d'une caresse distraite, se débattait comme une blessée qui agonise sur la route, au milieu des ténèbres, qui cherche en vain une flaque d'eau pour étancher sa soif ardente, et n'a plus le courage de se traîner, d'appeler au secours. Montoriol lui secouait les poignets, l'invectivait d'une voix enrouée d'ivrogne qui alampait quelques carafons d'eau-de-vie. Il s'échauffait, titubait en la heurtant au meuble comme une masse inerte, et machinalement cherchait aux quatre coins de la chambre une cravache pour frapper la malheureuse. Elle était pâle et le dévisageait de ses prunelles élargies par une épouvante affreuse. Ses tempes bourdonnaient comme martelée par des doigts opiniâtres. Elle sentait son cerveau se vider, comme par une fêlure agrandie. Le lieutenant, exaspéré par ce silence, hurlait comme s'il eût voulu qu'on l'entendît d'un bout à l'autre de la ville. « Catin, catin, tu crois que j'ignore où tu te vautres pendant que je ne suis pas là? On t'a pour 100 sous, on t'aurait pour un paquet de tabac. Et l'on me montre du doigt à la caserne, même les soldats. Tous les camarades y ont passé. Ose donc dire que ce n'est pas vrai. Tous, Mativet, Sinclair, Doniol, tous ont sali mes draps, salope. Et tu t'imagines que cela se passera comme autrefois? Que je consentirai à te tirer comme un boulet toute ma vie? À avoir à cause de toi l'air d'un idiot ou d'un Alphonse? » Elle frissonnait. Ces phrases mauvaises entraient dans sa chair pantelante comme des coups de couteau. Et raidie, échevelée, elle s'exclama les dents serrées. « je m'en vais, tais-toi, je m'en vais !» Il éclata de rire et lui ouvrit la porte au large. Elle descendit les escaliers d'un pas automatique de somnambule. Son peignoir usé balayait les marches poussiéreuses. Dans la rue, une de ses pantoufles tomba. Elle continua à marcher, déchirant son bas sur les pavés pointus. Elle murmurait avec une terreur machinale. « je m'en vais » et traversait les places et les carrefours. Des passants attardés la suivaient, la prenaient pour une raccrocheuse ivre. Elle allait droit devant elle, sans rien entendre, sans rien voir. Et elle dévala enfin sur la berge du canal, devant l'écluse des Célestins, d'où l'eau s'égouttait avec une plainte monotone. L'ombre épaisse des platanes noircissait la nappe stagnante. On eût dit un grand linceul de velours sombre. Un reflet de lune y vacillait comme un regard attirant. Thérèse répéta encore « Je m'en vais, je m'en vais » et se jeta dans le bassin. Le lieutenant Montoriol, Charles Edmond, a été proposé au choix pour le grade de capitaine. Et il doit épouser en septembre la fille du général-comte Labillette, commandant du 23e Corps armé.